Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous avons trouvé la paix profonde. Nous avons trouvé le vrai bonheur en Jésus-Christ. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs unis en Christ de célébrer à la gloire du Très-Haut un culte de louange, de baptême, de prière et de témoignage. Quelle bénédiction! Prions s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce dans nos vies. Nous voulons te dire merci pour ce culte édifiant. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence bienfaisante. Ô Éternel, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. J'aime beaucoup les témoignages de conversion parce que c'est une preuve de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Dans Jean chapitre 6, verset 44, Jésus dit que nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Et on peut constater que Dieu appelle à lui et il attire les gens de différentes façons, de différentes manières. Et cela est vrai même pour ceux qui viennent d'une famille chrétienne, qui sont nés dans une famille chrétienne. Ils n'ont pas tous le même cheminement, ils n'ont pas tous le même parcours en Christ. Je me souviens qu'il y a environ une trentaine d'années, j'ai rencontré un monsieur. Ce monsieur était issu justement d'une famille chrétienne. Lorsqu'il était enfant, sa maman lui a enseigné les rudiments de la foi chrétienne. Quand il est devenu jeune adulte et indépendant, il a décidé tout simplement de se révolter contre Dieu et contre sa parole, la Bible. Il a choisi de vivre pleinement sa liberté dans la luxure, en s'adonnant à la joie éphémère de la drogue et de l'alcool, et en savourant à volonté le plaisir sexuel. Évidemment, cette liberté-là, qui frise le libertinage, l'a conduit finalement en prison. Pendant ces années en prison, il était dégoûté de la vie. Il était devenu un prisonnier malade, agonisant et malheureusement sans soins. Et c'est dans cette prison macabre qu'il va se souvenir des enseignements bibliques de son enfance. Il va demander à Dieu de le sauver s'il existe réellement. Il était même disposé à devenir serviteur de Dieu si Jésus-Christ lui manifestait concrètement dans cette prison lugubre son amour. À sa grande surprise, quelques jours plus tard, une équipe de chrétiens, une équipe de missionnaires, va venir dans la prison où il était incarcéré pour évangéliser. Alors il va saisir l'opportunité, cette fois-ci, de se donner réellement à Jésus-Christ. Il va également bénéficier de soins de la part de ces chrétiens-là. Et non seulement il a été libéré de la condamnation éternelle, de l'esclavage du péché, mais plus tard, il va sortir de prison en bénéficiant d'une grâce présidentielle accordée à plusieurs détenus. Quand je l'ai rencontré il y a une trentaine d'années, il était justement en train de donner son témoignage de conversion pendant une campagne d'évangélisation plein air. Quel cheminement, quel témoignage. Ce matin, je voudrais prendre quelques minutes pour parler de témoignages. Mais d'un témoignage particulier. Nul ne doit ignorer ce témoignage spécial et précieux. Parce que c'est le témoignage le plus important, le plus grand de l'histoire de l'humanité. C'est le témoignage le plus important, le plus grand de tous les temps. Quel est donc ces témoignages. Je vous invite donc à lire ensemble dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5, versets 9 à 13. 1 Jean, chapitre 5, versets 9 à 13. Précisons que l'épître de 1 Jean est écrit par l'apôtre Jean, qui est lui-même témoin oculaire de la vie de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Donc, ses paroles sont fiables et dignes de confiance. 1 Jean, chapitre 5, versets 9 à 13. Je lis. Pardon, je vais prendre la lunette. Le temps est passé par là. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. C'est un passage biblique qui est simple, il est clair, et véhicule également un message clair et direct. Le témoignage de Dieu consiste à rendre témoignage à son Fils, le Christ, le Messie, le Sauveur du monde. Dès le début du ministère de Jésus-Christ, on peut remarquer que, en le voyant, Jean-Baptiste va faire cette déclaration. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Tantôt, notre frère Ronald a parlé du baptême de Jésus. Oui. Au début de son ministère, Jésus va se faire baptiser. Et lorsqu'il sort de l'eau, le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme de colombe. Et là, Dieu, là au Jourdain, Dieu rend témoignage à son Fils. Matthieu chapitre 3, verset 17. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Quel témoignage extraordinaire! Une voix qui se fait entendre des cieux. Et pendant la vie de Jésus, le témoignage de Dieu va être éloquent. Jésus était puissant en œuvre et en parole. Par sa naissance virginale, par sa vie sainte, par ses miracles, Dieu le Père va témoigner que Jésus-Christ est réellement Dieu le Fils. Et à la fin de son ministère terrestre, Dieu va encore rendre des témoignages à son Fils lors de sa transfiguration. De la nuée sortit une voix qui disait ceci, Marc chapitre 9, verset 7, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Ses propres frères, ils ne croyaient pas en lui. C'est ce que nous dit Jean chapitre 7, verset 5. Mais Dieu va briser leur incrédulité et leur endurcissement. Par quoi? Par la mort et la résurrection glorieuse de Jésus-Christ, dont eux-mêmes, ils sont témoins oculaires. C'est pourquoi on voit que les choses vont changer. Ses frères vont s'assembler avec les disciples de Jésus-Christ dans la chambre haute, dans Actes chapitre 1, verset 14. Mieux encore, ses frères vont se déclarer serviteurs de Jésus-Christ. Eux qui ne croyaient pas en lui, ils vont se déclarer serviteurs de Jésus-Christ. Dans Jacques chapitre 1, verset 1, et Jude chapitre 1, verset 1, qui selon ma conviction sont des écrits de Jacques et Jude, frères du Seigneur, comme nommé dans Matthieu chapitre 13, au verset 55. Le témoignage de Dieu est grand. Il transcende le temps et l'espace. Ce témoignage est inoubliable. Il est indélébile dans l'histoire du monde. Siècle après siècle, on ne peut pas l'effacer. Il demeure parce que c'est un témoignage qui est grand. Le témoignage de Dieu est non seulement grand, mais il est vivant. Il est réel et il est actuel parce qu'il s'adresse encore à nous aujourd'hui. Le verset 10 du passage que nous venons de lire dit ceci. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Crois-tu au Fils de Dieu ou le fais-tu menteur? Celui qui croit au témoignage du Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. C'est pourquoi il devient lui-même témoin du Fils de Dieu. Le chrétien est ambassadeur du Christ à cause du témoignage de Dieu en lui. Le verset 11 dit ceci. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie éternelle ne s'obtient pas en faisant de bonnes œuvres, de bonnes actions, en étant un bon citoyen. La vie éternelle n'est pas liée à la couleur de notre peau, à nos diplômes, à notre compte en banque, à notre richesse, à la réputation de notre nom de famille. La vie éternelle n'est liée à rien d'autre qu'à Jésus-Christ. C'est seulement en Jésus-Christ que se trouve la vie éternelle. Éternel. Et cela implique une âme attristée par ses péchés, un cœur qui est brisé. Cela implique un cœur qui est humble, qui ne regarde pas soi. Cela implique un cœur qui est repentant, un cœur qui est tourné spécialement, tout simplement vers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour nous. Et son sang nous purifie de tout péché. As-tu reçu le Fils de Dieu dans ton cœur? Cette question est très importante parce que ton éternité en dépend. Si tu n'as pas encore reçu le Fils de Dieu dans ton cœur, si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, n'en dissuie pas ton cœur aujourd'hui. Tu peux aujourd'hui même lui confesser tes péchés et le recevoir comme sauveur et Seigneur personnel. Viens humblement à sa croix. Il veut te sauver. Et il peut te sauver. L'apôtre Jean déclare au verset 13 que nous avons lu. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Remarquons qu'il ne dit pas, peut-être vous avez la vie éternelle, ou peut-être vous auriez la vie éternelle, ou encore peut-être après votre mort, Dieu va peser dans une balance vos bonnes actions, vos mauvaises actions, et puis selon le résultat, vous pourriez avoir la vie éternelle. C'est pas ce qu'il dit. Il parle au présent. Et il déclare clairement avec certitude, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est maintenant que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est ce qu'on appelle, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. Es-tu sauvé de la condamnation éternelle du péché? Es-tu sauvé de la colère à venir, du jugement de Dieu? Es-tu sauvé de cela? C'est maintenant que tu peux décider. Tu peux le décider maintenant. Pendant que tu es vivant. Car après la mort, il n'y a ni réincarnation, il n'y a ni purgatoire. Et la prière pour le repos des âmes est inutile. Car la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Et le verdict de ce jugement est déjà annoncé. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je trouve que ce verset est tellement clair qu'il n'a pas besoin d'explication. Dieu a voulu que ce qui concerne la vie éternelle, ce qui concerne l'assurance du salut, ce sujet nous soit communiqué dans des termes simples, clairs, limpides, sans équivoque, pour que personne ne se trompe. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. c'est qu'il nous a donné de son esprit. 1 Jean chapitre 4, verset 13. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. 1 Jean chapitre 4, verset 13. Tous ceux qui croient réellement en Jésus-Christ deviennent enfants de Dieu et reçoivent son esprit. C'est ce que la Bible appelle être baptisé du Saint-Esprit ou encore être scellé par le Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit, on est scellé du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'assurance de la vie éternelle. C'est lui qui nous donne par sa conviction la certitude d'être sauvé. Il nous donne cette assurance qu'aucune assurance vie ne peut nous offrir. Le salut de celui qui croit en Jésus-Christ est donc doublement attesté par la parole de Dieu et par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Là, une question légitime se pose, puisqu'on vient d'assister à 4 baptêmes. Si on est sauvé uniquement en croyant au Fils de Dieu, et si nous avons décidé de vivre pour lui, pourquoi se faire baptiser? Pourquoi donc? À quoi ça sert le baptême? Oui, le baptême n'est pas un rituel d'initiation pour commencer à être chrétien. Le baptême n'est pas non plus un moyen d'être sauvé. Mais toute personne qui devient disciple de Jésus-Christ doit se faire baptiser par obéissance. Parce que Jésus-Christ lui-même affirme clairement dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus-Christ lui-même a ordonné, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Le « les » là est mis pour les disciples. Donc celui qu'on doit baptiser, c'est celui qui est déjà devenu disciple, qui croit en Jésus-Christ. Si on baptise quelqu'un qui n'est pas disciple et qui ne sait pas ce pourquoi on le baptise, il fait juste une petite natation, il se mouille, c'est tout, mais ce n'est pas un baptême. Par le baptême, le chrétien s'identifie à la mort et à l'ensevelissement de Jésus-Christ en étant plongé dans les eaux du baptême, en étant immergé dans les eaux du baptême. Mais le chrétien s'identifie aussi à la résurrection glorieuse de Jésus-Christ en sortant des eaux du baptême. En effet, le baptême par immersion symbolise ce qui se produit en nous spirituellement quand nous nous donnons à Jésus-Christ. C'est un symbole de ce qui s'est déjà produit en nous. La Bible déclare que lorsque nous nous donnons à Jésus-Christ, désormais nous sommes morts au péché et nous sommes ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. Selon Romains chapitre 6, versets 1 à 4. Le baptême est un engagement public. Accepter Jésus, c'est une décision personnelle et généralement privée. Mais le baptême, c'est un engagement public. Seulement, cet engagement public attire souvent la moquerie, la persécution et même la mort sur certains chrétiens, dans certains milieux et dans d'autres régions. Mais ce n'est pas un fait nouveau. Le long de l'histoire et le long des siècles, les chrétiens ont été persécutés à cause de leur confession de foi en Jésus-Christ. Il y a environ 5 siècles, plus précisément le 5 janvier 1527, un jeune chrétien nommé Félix Mans a été tué à Zurich, en Suisse, parce qu'il avait osé se faire baptiser par immersion et qu'il avait ouvert sa maison à une telle pratique. Ce jeune martyr-là, il a été jeté vivant dans la rivière Lima, mains et pieds liés. Peu importe l'adversité, les chrétiens restent fermes dans leur foi à cause du témoignage de Dieu en eux. Et nous pouvons espérer que par la force du Saint-Esprit, nous persévérons jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. À la fin de la vie de l'apôtre Paul, qui était emprisonné, condamné à mort, il était emprisonné, il était condamné à mort, mais sa foi et le témoignage de Dieu en lui rayonnaient encore pleinement. Parce que ça, on ne peut pas emprisonner ça. On ne peut pas emprisonner la foi d'un chrétien authentique. On ne peut pas taire cette foi-là. Alors que Paul est en prison et condamné à mort, il a écrit ceci dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Car pour moi, je sais déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quelle merveilleuse espérance face à la mort prochaine, imminente, certaine. Quelle espérance. Mais nous savons tous que Paul a été persécuté de l'Église, qu'il a persécuté l'Église. Mais Paul a été transformé à cause du témoignage de Jésus-Christ sur la route de Damas. Il avait désormais ce témoignage en lui-même. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen.